Donc Marc chapitre 3 verset 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors de sens ». Et un tout petit peu plus loin, toujours dans Marc chapitre 3, les versets 31 et 35, donc c'est la même scène mais un tout petit peu plus tard, survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Donc c'est une journée qui est très particulière pour Jésus. Si on lit tout le passage, c'est une journée qui est très dure pour lui. On voit qu'il y a vraiment une multitude de gens. Donc d'un côté, ça peut sembler être un grand succès, mais on voit verset 8 au verset 10 du chapitre 3 que les gens carrément se jettent sur lui pour le toucher. Et il devait presque se sentir un peu agressé physiquement. Il y avait tellement de foule, tellement de monde, qu'à un moment, il demande à ses disciples de prendre une barque pour qu'ils puissent être sur le lac, de façon à pouvoir parler aux gens, parce que sinon, il est tellement pressé par tout le monde, il peut pas parler, et tout le monde essaye de le toucher. Ensuite, on voit qu'il rentre à la maison, qui est la maison de Pierre, à Capernaum, où il est accueilli. Et au verset 20, il est dit qu'ils peuvent même pas manger, tellement il y a de monde et tellement il y a de demandes. Verset 22, il est accusé par les scribes d'être possédé par le diable et de faire les miracles qu'il fait par le diable. Et on voit au chapitre 4, verset 38, et certains commentateurs disent que c'est sur la même journée, qu'il est dans la barque le soir pour passer de l'autre côté. Il y a la tempête, il est tellement épuisé, il dort en fait pendant la tempête, tellement il est vidé par tout ce qu'il a vécu au cours de la journée. Donc c'est particulier, on voit Jésus qui est complètement donné, qui est donné aux autres pour enseigner, qui est donné aux autres pour guérir. Et puis au milieu de ça, il n'arrive pas à se reposer, il n'arrive même pas à manger. Il y a les scribes qui l'accusent, qui disent que c'est le diable. Et là, en fait, il y a sa mère et ses frères qui arrivent. Et pourtant, sa mère, on le voit, c'était une femme pieuse qui avait une foi en Dieu, qui avait vécu quelque chose avec Dieu. Mais à ce moment-là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent qu'il a complètement perdu la raison, qu'il est peut-être dans un état d'excitation pour sa famille. C'est, voilà, il est en train de dépasser les bornes. Il est rentré dans un état d'excitation qui va le mener à la folie ou qui risque de le mener à la folie. Donc, il faut absolument l'arrêter dans ce qu'il est en train de faire et le ramener à la maison, y compris au besoin par la force. C'est verset 21, vers pour se saisir de lui. Donc c'est vraiment l'idée de venir pour le prendre et pour le ramener en disant il est en train de perdre toute raison. Au verset 31, on voit que sa mère et ses frères restent dehors et le font appeler. Quelque part, c'est triste parce que finalement, ils n'ont même pas de contact avec lui. Voilà, il y a beaucoup de monde qui est autour de Jésus et ils restent extérieurs à ce qui se passe. Et finalement, ils vont rentrer sans même avoir eu de véritable échange avec lui. Mais c'est comme si ce qui se passait est hors de leur concept. Donc la mère et les frères de Jésus, là, sont complètement déboussolés. Et pour eux, ça ne va pas. Ça dépasse les limites du raisonnable, les limites de l'acceptable. Du coup, ils sont en complet déphasage. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Jésus a une réaction qui, alors qu'il peut-être sur le moment interpeller, choquer, mais voilà, il comprend que c'est pas le moment. Enfin, ils n'ont pas la capacité de comprendre à ce moment-là, et il se tourne vers les gens qui sont autour de lui en disant voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et je crois que on a tous des parents terrestres, qui étant des parents terrestres sont des parents imparfaits nécessairement, et certaines peuvent avoir vécu des blessures, diverses. Quelquefois, ce sont des préférences qui ont été faites entre les enfants. Quelquefois, c'est de la négligence ou du manque d'amour. Quelquefois, au contraire, c'est une exigence excessive où les parents ont voulu réaliser ce qu'ils avaient raté eux-mêmes au travers de leurs enfants. Donc, parfois, certains peuvent ne pas avoir été désirés parce que la vie a fait comme ça. Ou alors, imaginez autrement, il y a peut-être certaines d'entre nous, les parents voulaient un garçon et puis sur le moment, il y a une déception parce que c'était une fille. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir... On a tous eu des choses qui sont arrivées par le fait de la vie parce qu'on est des êtres humains et il peut y avoir des blessures. Et puis, pour peut-être celles qui... On rencontrait Dieu en étant adulte et pour qui ça a été un changement dans leur vie assez important. Il peut y avoir des incompréhensions aussi, un comportement qui est jugé pas raisonnable parce qu'il y a eu un avant, un après et il y a des choses qui ne sont pas forcément comprises par la famille. Et je crois que Dieu veut opérer une guérison profonde par rapport à tout ça. Et en même temps, la première chose qu'il nous dit, c'est qu'on a une nouvelle famille. Et il nous dit qu'on a un Père céleste et que Jésus-Christ veut être comme notre grand frère et qu'on puisse connaître Dieu comme notre Père. Et la première étape, ça passe par là, ça passe par connaître notre famille céleste. Et en même temps, quand on lit le verset 35, on nous dit « quiconque fait la volonté de Dieu ». Alors on se dit « oh là, ça commence mal, parce que si pour connaître sa famille céleste, il faut faire la volonté de Dieu, ben faire la volonté de Dieu, j'y arrive pas ». Et comment est-ce que ça va être possible ? Et en même temps, celui qui a fait parfaitement la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le fait de faire la volonté de Dieu et de connaître Dieu comme notre Père, on le voit aussi dans la prière que Jésus nous a enseignée en Matthieu 6, versets 9 et 10. « Notre Père qui es aux cieux, et ensuite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et si on prie de tout notre cœur que ta volonté soit faite, c'est on prie aussi « aide-moi à faire ta volonté », parce qu'on ne peut pas prier que les autres fassent la volonté de Dieu et que nous, on ne cherche pas à la faire. Mais voilà, ça peut paraître un défi et se dire « en fait, c'est inaccessible parce que moi, je ne suis pas capable de faire la volonté de Dieu. » Mais celui qui a fait la volonté du Père de façon parfaite, c'est Jésus. Et de façon ultime, on voit dans le jardin de Gethsémané, avant la croix, c'est Jésus qui a dit toutefois que « ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne », où il aurait, dans son humanité, il ne souhaitait pas aller à la croix. Parce qu'il savait ce que ça représentait comme souffrance, comme séparation de la communion avec son Père. Et en même temps, il a voulu faire la volonté du Père de façon parfaite jusqu'au bout. Et en Luc 22, verset 42, il dit « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne ». Et à ce moment-là, on voit que les disciples échouent complètement. On a les disciples qui s'endorment au moment où Jésus leur demande de prier avec lui pour l'encourager. On a Pierre qui le renie trois fois. On a tout le monde qui s'enfuit au moment de la crucifixion. Il y a juste Jean qui reste autour de lui. Et en même temps, le premier passage où Jésus appelle les disciples frères, c'est juste au moment de la résurrection. En fait, en Jean 20, verset 17, quand Marie de Magdala le voit et commence à parler, il lui répond « Ne me touche pas car je ne suis pas encore montée vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et la première fois que Jésus appelle les disciples ses frères, en fait, c'est après un échec complet sur toute la ligne, où ils n'ont pas réussi, ne serait-ce qu'à l'entourer au moment où il souffrait le plus, au moment où il vivait le paroxysme de ce pourquoi il était venu. Et il ne dit pas frère simplement à Jean qui était là au pied de la croix, il dit « va dire à mes frères » en parlant de tous les disciples, que soit Pierre, que soit enfin tous ceux qui sont partis, qui n'ont pas qui étaient pleins de bonne volonté et finalement qui n'ont réussi à rien. Et il nous appelle frères et sœurs parce qu'il nous a rachetés par sa mort à la croix et pas parce qu'on a fait quelque chose. Et c'est le miracle de la nouvelle naissance. Quand on est nouveau, on est adopté par Dieu comme un enfant. et on reçoit le Saint-Esprit. Et dans Romains chapitre 8, verset 15, il nous est dit qu'on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba, A-B-A, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on crie, Abba c'est Père ou Papa en araméen. On peut crier Père parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, on a été adopté par le Père dans sa famille. Et on sait qu'on peut être considéré comme totalement accepté dans notre nouvelle famille. Peut-être que dans notre famille naturelle, il y a eu des moments où on a eu l'impression qu'on décevait nos parents, qu'on ne faisait pas exactement tout ce qu'il fallait. Mais on sait que Dieu nous a désirés. Et il y a quelque chose de miraculeux au moment de notre conception. Pourquoi est-ce que c'est tel spermatozoïde qui a fécondé l'ovule avec tel patrimoine génétique, ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On sait qu'il y avait des millions de combinaisons possibles et on était dans les pensées de Dieu. Dieu a voulu qu'on vienne à l'existence. Et Jésus nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Voilà, peut-être qu'à certains moments, on a eu l'impression que nos parents n'étaient pas très fiers de nous. Mais en tout cas, Dieu est fier de nous et il nous dit en Hébreux 2:11, car celui qui sanctifie, c'est Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, nous, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. On a un frère aîné qui nous a totalement sanctifiés en payant pour nous à la croix à notre place. Et du coup, il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Et c'est... En fait, il n'a pas d'attente sur nous, il n'a pas d'exigence. C'est lui qui a tout payé pour nous racheter et il nous offre sa vie. Et ce qu'il souhaite, c'est glorifier sa grâce. En fait, Dieu n'a pas besoin de glorifier sa puissance ou de glorifier... Voilà, Dieu est omniscient, il est omnipotent, mais il a choisi de nous racheter pour glorifier sa grâce. On le voit en Éphésiens 1, versets 5 et 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En fait, il a voulu célébrer la gloire de sa grâce. Humainement, peut-être que nos parents ont souhaité qu'on réalise des choses qu'eux n'avaient pas réalisées ou... Voilà, on a beaucoup d'attentes, ou nous-mêmes, si on est parents, on a des attentes sur nos enfants et on souhaiterait que, voilà, on veut être fiers. Mais le but de Dieu, c'est que ce soit sa grâce qui soit glorifiée, c'est-à-dire qu'à partir des personnes éloignées de lui que nous étions, ben simplement voir qu'on peut être sauvé par sa grâce et transformé. Et du coup, la première chose que Dieu souhaite pour nous, c'est qu'on puisse le connaître, qu'on puisse connaître son amour de Père. Alors, quelquefois, parler de Père, c'est pas toujours facile. Ça dépend aussi de ce que chacune a vécu. Voilà, on peut avoir eu la chance d'avoir eu un Père formidable, ou au contraire, un Père absent, ou un Père colérique. Et du coup, la référence au terme de Père est pas toujours facile dans notre humanité en fonction de ce qu'on a pu vivre. Mais on sait que notre Père Céleste, lui, est parfait. Et je voulais juste vous donner peut-être deux versets qui nous parlent de l'amour de Dieu d'une façon... Alors, l'un, c'est qu'il montre que dans l'amour du Père, il y a aussi un amour presque maternel. Quand Jésus dit en Matthieu chapitre 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est le cœur de Jésus pour les habitants de Jérusalem. Il sait ce qui va se passer après avec la mise à sac de Jérusalem par les Romains. Et il a un amour qui est plein de tendresse. Il donne cette image de la poule qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes. Et puis en Deutéronome chapitre 1, verset 31, c'est Moïse qui parle au peuple par rapport aux 40 ans qu'ils ont passés dans le désert. Et il dit « Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Et il donne l'image de Dieu comme d'un... d'un homme, d'un papa qui porte son enfant sur les épaules. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé petit, voilà, au terme d'un chemin trop long où on n'arrive plus à marcher. Et on dit papa, c'est encore loin. Et le papa prend l'enfant sur ses épaules. Et c'est vrai que c'est une position où on est bien. Et là, c'est l'image qui est donnée du Père qui porte le peuple sur ses épaules. Et on peut prendre cette image aussi pour nous dans les moments difficiles, que Dieu nous prend sur ses épaules comme un petit enfant. On a aussi la description de l'amour qui est faite en 1 Corinthiens 13. Et quand il est parlé de l'amour, c'est l'amour entre les frères et sœurs, mais c'est aussi l'amour que Dieu a pour nous, c'est le même amour. Au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. On sait que Dieu est patient avec nous, il est plein de bonté, de bienveillance avec nous. Au verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà, Dieu a de l'espoir sur notre vie. Dieu a la foi pour nous, en fait. Nous, quelquefois, on n'a plus de foi pour notre propre vie en se disant que, voilà, on a fait les choses de façon minable ou on a échoué, mais Dieu a une espérance, Dieu a de la foi pour notre vie et il nous pardonne parce qu'il a payé pour tout. Et la deuxième chose, c'est qu'il souhaite qu'on lui fasse confiance comme un père peut inspirer la confiance à ses petits-enfants. Dans les situations difficiles, et on voit que si les parents sont dans la paix, les petits-enfants vont expérimenter dans la paix, ils ne vont pas s'inquiéter parce que simplement ils voient que les parents vont bien. Et nous, on sait qu'on a un Père Céleste qui maîtrise les choses et du coup, on peut lui faire confiance et être dans la paix simplement parce qu'il contrôle et il maîtrise les choses. Et il nous est dit que quand quelque chose nous arrive, ça concourt à notre bien parce que Dieu veut nous rendre semblables à Christ. Son but, c'est qu'on puisse ressembler de plus en plus à notre frère aîné, qu'on soit comme des petits frères et des petites sœurs qui ressemblent plus à Christ. Et on voit en Romains 8, versets 28 et 29, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc, comme on est pour beaucoup Romains 8, 28 depuis longtemps, sachant que voilà, on veut croire que toute chose concourt à notre bien, mais ça concourt à notre bien parce que Dieu a un but qui est qu'on puisse ressembler de plus en plus à Christ. Et c'est pour ça que les choses, on peut accepter et croire qu'elles vont concourir à notre bien. C'est parce qu'on va être transformé de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et c'est vrai que Dieu souhaite que son caractère puisse se manifester de plus en plus en lui, pour que d'autres personnes puissent être attirées à lui. Et puis, c'est un mystère que presque on a du mal à comprendre, qu'on croit par la foi, c'est Dieu est venu comme un homme sur la terre en Jésus-Christ et maintenant il utilise ses enfants en réalité pour communiquer son cœur aux autres et donc il souhaite qu'on lui ressemble de plus en plus pour pouvoir communiquer qui il est aux autres. Et du coup c'est vraiment lui qui nous donne la capacité de faire sa volonté et c'est quelque chose qu'il crée en nous. Et c'est surtout une question de... c'est pas une question de faire de grandes choses, c'est un état d'esprit d'accepter ce que Dieu dit et de croire que s'il le dit, c'est que c'est bon. Et en Romains 12, 2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, c'est un processus qui commence d'abord dans nos pensées, de ne pas chercher à imiter le monde qui nous entoure, mais d'apprendre à connaître les pensées de Dieu par sa parole et de les laisser nous transformer. Et c'est ça qui nous permettra de reconnaître ce qui est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Et les deux verbes, ne vous conformez pas et soyez transformés, à chaque fois c'est à la voie passive. Donc c'est une action qu'on ne fait pas mais qu'on reçoit en quelque sorte. Et le premier, ne vous conformez pas, c'est un verbe grec qui a donné schéma en français. qui parle de conformité extérieure, d'adoption d'un, ou de, d'imitation d'un mode de conduite. Donc c'est comme si Dieu nous disait « Arrêtez de vous laisser façonner par le monde qui essaye de vous imposer un moule extérieur pour être comme tout le monde. Et au contraire, soyez transformés. » C'est métamorpho, un verbe qui a donné métamorphose en français, qui est aussi utilisé pour la transfiguration de Jésus. Et là, c'est l'inverse. Ça parle d'une transformation de l'apparence extérieure, mais à partir de l'être intérieur. C'est-à-dire, on est déjà enfant de Dieu à l'intérieur, mais Dieu veut nous transformer de plus en plus pour que ça se voie extérieurement. Et que la nouvelle vie qu'on a reçue, que Dieu nous a donnée, que nous avons reçue par la foi, puisse se voir de plus en plus à l'extérieur. Donc on est déjà enfant de Dieu, on est déjà frères et sœurs de Christ, mais simplement Dieu souhaite que ça se manifeste de plus en plus, et donc en acceptant de lui soumettre nos pensées et de reconnaître qu'il a raison. Et c'est vrai, quelquefois, Dieu peut nous surprendre. Et on peut être tenté d'être un peu comme Marie et les frères de Jésus qui trouvent que Dieu n'est pas raisonnable. On peut avoir envie de mettre Dieu dans notre moule, dans notre petit schéma qui correspond bien à ce qu'on a imaginé. Voilà, mais Dieu peut nous surprendre. Et après, c'est vrai qu'il y a un processus qui est d'accepter que Dieu ne soit pas tel qu'on l'imagine, mais nous, d'accepter Dieu tel qu'il est, tel qu'on apprend à le connaître par la parole de Dieu. Et on sait aussi que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Ça nous est dit en 2 Pierre 3,9. Et donc le cœur de Dieu, c'est que voilà, tout être humain puisse le connaître. Et du coup, notre but et la volonté alors, générale de Dieu pour notre vie, c'est qu'on le connaisse de plus en plus et qu'on puisse le faire connaître à d'autres. Et la prière de Jésus en Jean 17, c'était que il soit en nous, afin que nous soyons parfaitement un, et que le monde connaisse que Dieu, le Père, a envoyé Jésus sur la terre et qu'il nous a aimés. Et donc, apprendre à exprimer ce que Dieu nous a déjà donné. Et ça peut aussi avoir une incidence sur nos relations les uns avec les autres, si on se voit en tant que frères et sœurs. On voit, par exemple, Paul en Philippiens 1,8, qui a une expression qui est touchante par rapport aux personnes à qui il écrit. Il dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Mot à mot, c'est avec les entrailles de Jésus-Christ, parce qu'à l'époque, tout ce qui était sentiment était localisé dans les entrailles, un peu comme on place l'intelligence dans la tête. Donc il disait, voilà, je vous chéris avec les entrailles, avec la tendresse de Christ. Paul connaissait l'amour de Jésus pour lui et du coup voulait le communiquer aux Philippiens. Et du coup, quid de notre famille terrestre ? Ce qui est touchant, c'est de voir que voilà, il y a un moment où il y a une incompréhension totale de la part de Marie et des frères de Jésus par rapport au ministère de Jésus. Mais quand on lit la suite, on voit que Marie était à la croix au pied de Jésus, parmi les quelques personnes qui ont été au pied de Jésus. Et Jésus a pensé à elle alors qu'il était sur la croix. Il était en train de payer pour toute l'humanité. Et il a une parole et une pensée pour sa mère à la croix. On lit en Jean 19, versets 25 et 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Ça, c'est un détail que je n'avais pas vu, en fait. Il y avait, en fait, la mère de Jésus, mais la tante de Jésus aussi. Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Donc il est question de Jean. Comme c'est Jean qui écrit l'évangile, il ne se nomme pas lui-même. Il dit simplement le disciple que Jésus aimait. Et donc au moment qui était le plus dur pour Jésus, en fait, Marie était là et Jésus a pensé à elle et à ce qu'elle allait devenir et a demandé à Jean de s'en occuper. Et on voit ensuite dans le livre des Actes, quand les disciples se sont réunis après la résurrection et qu'ils ont persévéré dans la prière, ils étaient avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc en acte 1, 14, on voit qu'à la fois la mère de Jésus et les frères de Jésus étaient là pour prier avec les disciples. Et on voit ensuite que plusieurs des frères de Jésus sont devenus des personnes qui ont eu un impact dans l'Église. On voit en Matthieu 13, 55 qu'il avait quatre frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et on entend parler dans les actes et dans les épîtres au moins de Jacques et de Jude. Jacques, on sait qu'il est devenu le responsable de l'Église de Jérusalem, qu'il était un référent. C'est lui qui a pris la parole à un moment où il fallait prendre des décisions importantes quand l'apôtre Paul avait été confronté à un certain nombre de difficultés en acte 15. Il écrit aussi une épître, l'épître de Jacques. On a aussi l'épître de Jude. Donc on voit les frères de Jésus qui ont été transformés et qui ont connu Jésus d'une autre façon. Et le premier verset dans l'épître de Jacques et le premier verset dans l'épître de Jude, c'est touchant parce qu'ils ne prétendent pas à quelque chose par rapport à leur qualité de demi-frère de Jésus, mais ils se présentent comme esclaves de Jésus-Christ. On lit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, et en grec, c'est le mot qui parle carrément d'esclave. Et pareil pour Jude, Jude, serviteur ou esclave de Jésus-Christ, et frère de Jacques. Il signale qu'il est frère de Jacques, mais voilà, il ne prétend pas à quelque chose, il n'essaye pas de se donner une autorité particulière par rapport au fait qu'il était demi-frère de Jésus. Et c'est encourageant de voir qu'il y a eu un moment où, malgré toute la piété de Marie, la mère et les frères et sœurs de Jésus sont passés totalement à côté de ce qui était en train de se dérouler. Ils ont raté quelque chose d'une certaine façon, mais en même temps, Dieu est grand et Dieu a continué son œuvre et Dieu a continué à travailler dans le cœur de Marie, des frères et sœurs de Jésus. Et on voit qu'après la résurrection, au moment où Dieu les avait rachetés, parce que Jésus était mort à la croix pour eux aussi, il y a eu une vie nouvelle et du coup, ils ont été vraiment impliqués dans la vie de la première Église, et Jacques et Jude en particulier avec une responsabilité importante. Et c'est une belle espérance, je trouve, que ça nous donne aussi. Quelquefois, on peut avoir des relations plus ou moins faciles avec notre famille. Il y a des périodes, il y a des saisons. Quelquefois, il y a des choses qui se font avec le temps. Il peut y avoir pendant des moments des incompréhensions. Et puis, je crois que Dieu peut opérer aussi des guérisons très profondes, en tout cas d'abord dans notre cœur. Ensuite, il peut nous aider aussi à pardonner par rapport à des choses qu'on peut avoir vécues. Quelquefois, il y a des choses qu'on ne connaît même pas, qui sont un petit peu des non-dits dans des familles, qui peuvent aussi être lourdes, mais Dieu veut en tout cas nous guérir d'abord en connaissant son amour et en nous donnant cette sécurité de cette famille céleste qu'on a, qui nous permet du coup d'aimer les autres. Et par rapport à nos relations avec notre famille terrestre, juste pour finir, il y a deux passages qui peuvent sembler un peu, pas contradictoires, mais dans deux sens différents, mais ça nous montre qu'on a besoin de soi Dieu qui nous conduise. En Luc 14, verset 26, il est dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à ses propres vies, il ne peut être mon disciple. » Donc quelque part, c'est une forme de standard assez haut, mais c'est de mettre Dieu à la première place par rapport à nos relations humaines et même par rapport à notre propre vie. Et en même temps, il nous dit en Marc 7, versets 8 et 10 à 13, pour nous montrer que quelquefois on peut détourner les choses et on peut avoir une approche religieuse et traditionnaliste qui est pas correcte. Là, il parle aux pharisiens. Il dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Donc là, c'est le rappel de la loi qui, parmi les commandements, il y avait celui d'honorer son père et sa mère. Mais vous, pharisiens, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban. Alors ça, c'est un mot qui vient de l'hébreu, et il explique ensuite, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Donc en fait, les pharisiens disaient, bon, aider son père et sa mère, c'est très bien, mais si vous avez consacré quelque chose à Dieu, ah, c'est consacré, et du coup, vous ne pouvez plus y toucher, et vous ne pouvez plus aider vos parents avec ça. Et Jésus leur montre que leur cœur n'est pas correct, parce que à la fois, Dieu doit être mis à la première place, mais en même temps, Dieu lui-même nous demande d'honorer nos parents et aussi de les assister. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de législations. Même dans la loi française, il y a un devoir qu'on appelle l'obligation alimentaire, qui est si un père, une mère ou les frères et sœurs sont dans le besoin de contribuer à la hauteur de nos possibilités. Et ça correspond à quelque chose qui était déjà dans la Bible. Mais voilà, eux, ils étaient rentrés dans une logique où ils tiraient argument de ce qui consacrait tout à Dieu pour du coup ne plus du tout être disponible quand il y avait un besoin dans la famille. Donc c'était pas correct non plus. Ça montre qu'en fait notre cœur est un peu tortueux et quelquefois on peut prendre une partie des Écritures et puis du coup s'exonérer du reste. Alors en même temps, c'est un chemin qui n'est pas toujours très facile. Il peut y avoir des périodes différentes, il peut y avoir des moments où une personne de notre famille a plus de besoins. Il y a besoin d'un équilibre. En tout cas, c'est savoir dans notre cœur qu'on donne la première place à Dieu, mais en même temps, on est sensible à son Saint-Esprit. Et son cœur, c'est aussi qu'on puisse aimer les personnes de notre famille et être disponible quand il y a des moments particuliers où il y a des besoins particuliers, donc avec des saisons différentes. Voilà, quelqu'un peut être appelé à partir comme missionnaire à l'autre bout du monde, alors même qu'il a des parents qui peuvent être tristes de le voir partir, et puis Dieu va lui donner la conviction que c'est comme ça, c'est bien pour un temps, et Dieu prendra soin lui-même. Et puis, à un autre moment, Dieu peut dire, ben, maintenant, c'est le temps de peut-être être un peu plus disponible et d'occuper un peu plus. Voilà, il y a des saisons différentes. Il n'y a pas de règle absolue, mais c'est être simplement disponible pour ce que Dieu souhaite. Mais en tout cas, c'est de savoir que c'est parce qu'on connaît l'amour de notre Père Céleste qu'on peut être capable d'aimer de la bonne façon les membres de notre famille, en pardonnant, le cas échéant, s'il y a eu une souffrance particulière ou s'il y a eu des choses particulières. Et ce dont ils ont le plus besoin, en réalité, c'est la même chose que nous, c'est connaître l'amour de Dieu pour eux, de même qu'on a besoin de connaître l'amour de Dieu pour nous.